Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 10 septembre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, semaine mouvementée, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, on a dit la semaine passée que les marchés étaient passablement volatiles, ça se poursuit. Hier, on a eu quand même une bonne journée positive, là, mais en fin de semaine dernière, c'était négatif. Encore aujourd'hui, un peu en dents de scie, là, le Dow Jones est en territoire légèrement négatif, le Nasdaq est en territoire positif, TSX légèrement négatif. Semaine, donc de mercredi dernier jusqu'à aujourd'hui, on parle de moins 0.4 sur le TSX, moins 0.7 sur les marchés américains. Donc, pour le mois en cours, là, 4% de baisse sur le Nasdaq, 2.8 sur le S&P 500, 1.7 sur le TSX, donc du négatif partout. Par contre, il y a quand même du positif au tableau. Les taux d'intérêt ont continué de baisser, donc non pas seulement ceux de la Réserve fédérale puis de la Banque centrale, mais les taux obligataires, donc les taux d'intérêt des obligations du Canada 10 ans à 2,9. On était à 3,3 la semaine passée. On est à 3,64 aux États-Unis. On était à 3,84 la semaine passée. Donc, quand les taux d'intérêt baissent, la valeur au marché des obligations augmente. Donc, ça a un aspect favorable sur le portefeuille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné, là, mais le pétrole, on n'a pas beaucoup d'exposition au pétrole, là, mais le prix d'un baril est à 66. On était à 74 à la fin du mois d'août. Donc, quand même une baisse assez significative. À travers toutes ces nouvelles relativement négatives-là, il y a quand même des titres qui ont fait des nouveaux sommets dans la dernière semaine. Banque CIBC, Banque Royale, Savaria, Aecon Group, Power Corporation, Mastercard. Donc, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces titres-là? Il n'y en a aucun qui est dans le Mag 7, dans les 7 magnifiques. Donc, est-ce qu'il y a une certaine rotation du marché? Peut-être, mais ça fait du bien là, de voir d'autres choses que du Nvidia, du Amazon puis du Microsoft là, augmenter. On a un autre invité aujourd'hui, donc je vais lui laisser le plus de place possible pour nous parler des marchés. On va arrêter ici pour ce qui est de la revue.
Bien entendu, on aime bien quand tout monte, mais, oui. Mais à défaut, si c'est des titres qu'on connaît bien, qu'on détient, c'est le fun aussi. Donc, étant donné la volatilité récente des marchés, donc tu en as discuté, et le fait qu'on est dans un mois qui est traditionnellement quand même plus volatile, nous avons pensé que le moment était propice d'inviter notre collègue Jean-René Ouellette, analyste senior et gestionnaire de portefeuille, le conseiller des conseillers, pour venir échanger avec nous sur le contexte actuel des marchés et aussi sur sa vision pour les prochains mois. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-René.
Hey, bonjour à vous deux, avec grand plaisir encore une fois.
Donc alors, Jean-René, qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'économie, sur les marchés? Peux-tu nous expliquer un peu la récente volatilité?
Hey, j'ai le goût d'abord qu'on prenne trois grandes respirations et qu'on prenne un peu de recul. Quand on parle, je vous vois visuellement prendre de grandes respirations. Puis, honnêtement, j'invite tous les investisseurs à faire un peu la même chose. Quand on nous dit que c'est volatile, c'est vrai que les derniers 2, 3, 4 semaines ont affiché un peu plus de nervosité. Ceci dit, on a enchaîné les excellentes performances et plusieurs nouveaux sommets cette année. Il faut bien comprendre que ce qui est normal, c'est pas que ça monte tout le temps. Ce qui est normal, c'est que ça monte de manière épisodique et de temps en temps, il y a des soubresauts. Donc, c'est juste tout à fait normal. On a eu certaines inquiétudes à l'égard de certaines données économiques qui ont laissé présager d'un ralentissement du marché du travail. Certains sont inquiétés à savoir est-ce qu'on allait avoir une récession qui allait se dessiner ou pas. On a eu d'autres chiffres d'inflation depuis ce temps. On a eu d'autres chiffres, d'emploi depuis ce temps-là qui ont été, je vais dire, mi-figue, mi-raisin. C'était un peu plus fort que le mois d'avant, révisé un peu plus bas à la baisse, donc un rebond versus un chiffre plus bas. Fait que bref, il y a du pour, il y a du contre, il va falloir décortiquer tout ça. Mais quand on regarde les fluctuations auxquelles on fait face à l'heure actuelle, moi j'aime rappeler aux gens, depuis 1980 à aujourd'hui, en cours d'année, le recul moyen du TSX ou du S&P 500, on devrait tourner aux environs des moins 14, moins 15%, et ça c'est juste une moyenne. On est loin de là, là, à l'heure actuelle. Quand on parle de moins 4 versus des sommets la semaine dernière, je pense qu'il faut prendre le temps de relativiser les choses, prendre un peu de distance, puis regarder ce qu'on a sur la table à dessin.
Donc, nous pensons que la Banque centrale américaine devrait baisser les taux ou son taux de directeur lors de sa prochaine rencontre. Je dis bien qu'on pense. Quelle est ta prévision par rapport à cette rencontre et le changement dans les taux d'intérêt?
Il faut bien comprendre, ça va être le début d'une nouvelle séquence baissière. On l'a dit, vous et moi, ensemble, Il apparaissait maintenant évident que le sommet sur les taux avait été atteint l'automne dernier. Puis pourquoi on pense que les sommets ont été atteints? Parce que l'inflation revient vers les cibles souhaitées. Hey, on va prendre un peu de recul là-dessus aussi. Rappelez-vous comment en 2022, on avait hâte que l'inflation soit transitoire, puis on a arrêté de croire à l'inflation transitoire. Puis en plus, en début de 2022, il y a eu l'agression russe sur l'Ukraine qui a dynamisé l'inflation à nouveau. Mais finalement, on est obligé de réaliser avec un peu de recul que la politique monétaire, ça fonctionne. Quand on augmente le taux directeur, l'économie ralentit et l'inflation flanche d'elle-même. De sorte qu'aujourd'hui, l'inflation est de retour plus près de la cible de la Réserve fédérale. Martin, tu mentionnais également le pétrole à 66-67 $. Ça, les démocrates sont super contents de ça à l'aube d'une élection. Ça donne le feeling que le sentiment des prix est un peu plus bas, qu'on va avoir réglé le problème d'inflation. Et n'oublions pas, aux États-Unis, on est en train d'administrer un taux directeur de 5,5 %. Si l'inflation est à 2,5, alors la politique monétaire demeure restrictive. Donc, si la Réserve fédérale américaine amorce un cycle de baisse ou de détente monétaire, ça ne veut pas dire que la politique monétaire va être lousse. Ça veut juste dire qu'elle va tranquillement devenir un peu moins restrictive. Donc, ça, on le sait. Même chose au Canada, j'ai le débat à savoir qu'est-ce qui compte, c'est la cadence ou la destination. On sait que les taux d'intérêt sont appelés à baisser. Notre scénario de base chez Desjardins pour les taux canadiens, c'est d'amener le taux directeur à 2,25 % fin 2025. On sait qu'il y a énormément d'hypothèques qui vont se renouveler en 2025, qui vont avoir un certain mordant sur les consommateurs qui renouvellent. La Banque du Canada est au courant de ces choses-là. Mais est-ce qu'on prend le taux directeur à 5 % et qu'on le ramène à 0? La réponse, c'est non, c'est pas notre scénario. On pense qu'on va revenir tout près du taux neutre et un peu en dessous, mais qu'on ne retourne pas au creux qu'on a vu pré-pandémie. Bref, la Réserve fédérale américaine, elle a les coups des franges pour commencer à agir maintenant. Moi, en début d'année, j'aurais pensé qu'elle aurait au moins attendu après l'élection. D'ailleurs, ils ont décalé leur rencontre de quelques jours en novembre prochain. D'habitude, les rencontres du FOMC, là, des comités de la Fed, c'est le mardi-mercredi. Cette fois-ci, ça a été décalé au mercredi-jeudi. Donc, ils s'ouvrent l'opportunité pour parler après l'élection. Mais bref, est-ce qu'elle pourrait agir de maintenant? La réponse, c'est oui. M. Powell l'a très bien télégraphié à Jackson Hole. Après ça, savoir si c'est 25 points de base ou 50 points de base, moi, j'aurais un penchant pour le 25. Je ne vois pas l'urgence d'agir avec 50 points de base dans l'optique où les chiffres d'emploi sont un peu plus mous, mais ne sont pas mauvais. L'inflation est de retour dans ses cibles, mais n'est pas excessivement faible non plus. Les ISM sont corrects, mais sans être trop faibles ni trop forts. Donc, je ne vois pas l'urgence d'agir avec des grands mouvements à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'elle pourrait être tentée d'en faire un peu plus, un peu plus tôt, puis de prendre des pauses par la suite? Ça, il y a juste les membres de la Fed qui vont le décider entre eux dans les rencontres à suivre.
Puis en plus, avec l'élection qui arrive, ce serait surprenant que la Fed décide de faire un geste un peu plus d'éclat. Ils ne veulent pas avoir d'opinion ou d'impact sur les élections. En tout cas,
D'ailleurs, Martin, depuis les années 70, généralement, dans les années de campagne présidentielle, la Fed, elle ne change pas de cap. C'est-à-dire que si elle avait commencé à baisser, elle continue. Si elle avait commencé à monter, elle continue. Puis si elle ne faisait rien, elle continue à rien faire. C'est quand même assez spécial si elle agit dès le mois de septembre. Ouais. J'imagine que M. Trump va avoir quelques tweets de prêt pour l'occasion.
Fort probablement. Puis la question de l'heure, en fait, est-ce qu'on va avoir une récession ou on parle d'atterrissage en douceur? C'est un peu les deux scénarios qui sont souvent avancés. C'est-tu les deux seuls scénarios? Qu'est-ce que tu en penses?
Hey, moi, Martin, j'ai le goût de te donner une réponse pour bouche-bée tous tes gens. J'ai le goût de te répondre oui et oui. Est-ce que c'est possible qu'à court terme, on se destine vers un atterrissage en douceur? Oui. Mais est-ce que c'est possible qu'on ait une récession? La réponse est oui aussi. Puis pourquoi je dis récession? C'est que ça fait partie d'un cycle normal. Okay? Des récessions, il y en a toujours eu, avec des écarts plus ou moins grands. Puis une récession, c'est pas quelque chose à craindre. Ça fait aussi partie d'un cycle normal. Puis Martin, tu as illustré quelque chose de super important dans ton appel tantôt. C'est que malgré les difficultés du côté des actions, la lutte à l'inflation des dernières années a permis de restaurer les taux d'intérêt à des niveaux bien plus élevés. Donc, ça génère des rendements courants intéressants. Mais aussi, puis c'est ça le plus important, je pense, c'est que ça vient offrir une capacité de protection advenant des difficultés du côté des actions. Fait qu'il y ait récession ou pas, je pense qu'on est en meilleure posture aujourd'hui que nous l'étions, par exemple, disons, en 2022. En 2022-2021, quand les taux d'intérêt étaient super bas, donc le taux d'intérêt était bas, donc le rendement courant des obligations n'était pas excitant ou pas très intéressant, mais la capacité de protection était hyper anémique. Aujourd'hui, comme on est dans un environnement de taux plus haut, non seulement mon rendement courant est intéressant, mais la capacité de protection de mon marché obligataire advenant des défaillances du côté des actions, lui, est restaurée. Fait qu'on peut avoir des inquiétudes à l'égard du marché obligataire ou à l'égard du marché des actions, mais je suis quand même confiant qu'un portefeuille bien équilibré devrait bien se comporter. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours bien performer à chaque période, mais en moyenne, sur un cycle complet, il devrait bien se comporter. Puis dans une récession, bien, ce qu'il y a toujours de bien, c'est d'offrir des opportunités d'acheter des meilleures entreprises à meilleur prix, puis ça, on veut bénéficier de ça. Fait qu'on est toujours aux aguets pour ça.
Ouais, puis la phrase que tu répètes bien souvent, c'est nous, on n'est pas des investisseurs à temps partiel, on est des investisseurs à temps plein. Puis le fait de quitter le marché ou d'essayer d'anticiper ces cycles-là, généralement, ça va juste nuire à notre performance à long terme, ça ne va pas l'améliorer.
Martin, rappelons-nous, on était début 2023, fin 22 2023. Une panoplie, en fait, une grande majorité de stratèges bien payés sur Wall Street et ailleurs prévoyaient qu'en 2023, on devait vivre une récession. Assurément, hein, les taux d'intérêt avaient tellement augmenté, c'était certain
qu'on allait vivre une récession. L'apocalypse, Jean-René, l'apocalypse.
Certains ont même utilisé des gros mots comme ça, puis le S&P 500 a fini par bondir de plus de 25 % l'année passée. Fait qu'oublions pas une chose, un modèle, ça reste un modèle. En investissement, on n'aura jamais un score parfait, surtout. C'est pour ça que la première chose à proscrire, c'est de faire attention aux excès. Quand on aime quelque chose, on peut en mettre un peu plus, c'est correct. Mais on ne met pas juste ça. Puis quand on n'aime pas quelque chose, savez-vous quoi? On en met pareil, quitte à en mettre un peu moins. Mais souvent, ce qui fait le plus mal au portefeuille, ce sont les excès de conviction. Sarah, Martin, votre job à vous, là, c'est de cadrer les convictions de vos gens. Puis je pense que vous faites une bonne job là-dessus.
Bien, merci beaucoup, Jean-René. Puis j'ai une question pour toi qu'on se fait poser puis qu'on a peut-être discuté déjà sur d'autres balados. Mais qu'est-ce que tu penses des élections américaines et des marchés boursiers? Puis ça va être quoi l'impact? Les investisseurs s'inquiètent.
Sarah, si tu me permets, deux choses là-dessus. De l'une, on va citer notre célèbre Warren Buffett. Warren Buffett disait « Les politiciens sont super bons ». Pour essayer de nous convaincre que la prochaine élection, c'est la plus importante depuis des générations et qu'évidemment, eux seuls ont les solutions à tous nos problèmes. Mais on sait très bien que les politiciens finissent par passer puis on continue d'avoir des problèmes. Fait que prenons-en et laissons-en. Puis il y a aussi un super papier cet automne de Bank of America Merrill Lynch qui disait « Si vous aviez, depuis 1950, à peu près 53, je pense, investi 1 000 dans les années de présidence républicaine, ça vaudrait essentiellement 30 000 $ aujourd'hui. Si vous aviez investi à peu près 1 000 $ par année pendant les années de présidence démocrate, ça vaudrait aujourd'hui à peu près 52-3 000 $. Mais si vous aviez investi votre 1 000 $ par année à toutes les années en faisant fi totale des politiciens, ça vaut essentiellement 1,7 million de $ aujourd'hui. Hey, bref, je pense qu'on donne beaucoup trop d'attention aux politiciens et aux à la politique, et qu'on devrait peut-être focusser un peu plus sur les politiques. Parce que les politiques, elles sont beaucoup plus stables. Évidemment, on va écouter notre débat ce soir de Mme Harris, M. Trump. Ça risque d'être désolant comme la plupart des shows politiques, mais on va essayer de décortiquer, on va travailler avec nos stratèges, on va parler avec Raphaël Jacob là-dessus, des dessous, tout ça. Puis on aura le temps de se reparler pour ça dans un prochain balado, mais à suivre.
Bien, merci beaucoup, Jean-René. Merci pour tes mots rassurants. Merci, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.